Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington DC pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui. Bienvenue à cette édition du vendredi 30 mars 2018. À la une ce soir, le maire de Dakar, Ali Fassal, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire de la caisse d'avance. En République démocratique du Congo, congrès de l'UDPS, principal parti d'opposition, pour choisir son porte-drapeau en vue de la présidentielle du 23 décembre. La Sierra Leone, aux urnes demain pour le second tour de la présidentielle. Et dans la partie magazine, polémique en Centrafrique sur les célébrations du deuxième anniversaire de l'arrivée du président Touadéra au pouvoir.
Pendant les deux ans, il y a certains qui ont été réalisés, mais le problème ici, c'est un problème de sécurité.
J'ai l'impression qu'ils ont créé un pays fictif dans leur tête, où tout va mieux dans le meilleur du monde.
Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS est lancée. Le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social a ouvert ses travaux aujourd'hui. 4 candidats, dont Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant décédé l'an dernier, sont en course. Ils seront départagés par plus de 1000 délégués venus du monde entier. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Plus de 1100 délégués venus des provinces de la République démocratique du Congo et de toutes les fédérations de l'UDPS en Afrique et dans le monde prennent part à ce tant attendu congrès extraordinaire qui a pour principal objectif la désignation du nouveau président du parti suite au décès depuis le 1er février 2017 de l'emblématique Étienne Tshisekedi. 4 candidats sont en course et seront départagés ce samedi. Il s'agit de Félix Tshisekedi, le fils du défunt président donné favori, de David Keba, du professeur Paul Tshilumbu et de Guy Bao Ebamou. Nous sommes obligés de continuer à écrire l'histoire de notre parti et perpétuer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, a déclaré dans son mot de circonstance le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund, et d'ajouter « L'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs. Notre parti n'est pas un patrimoine, moins encore une coterie entre amis. » Le remplaçant d'Étienne Tshisekedi doit revêtir une posture de rassembleur, a-t-il souligné, appelant ainsi les congressistes à faire un bon choix. Notez que plusieurs personnalités de l'opposition, parmi lesquelles Vital Kamerhe de l'UNC, Eve Bazaïba du MLC, Martin Fayulu de l'ECID ou encore Jean-Bertrand Ewanga de l'Alternance pour la République, ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ce congrès dont les travaux se clôturent ce samedi 31 mars 2018. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et toujours concernant l'élection présidentielle en RDC, des sondages présentés par des experts étrangers indiquent que si l'élection avait eu lieu dimanche, 66% des Congolais voteraient pour des candidats d'opposition face au camp du président sortant Joseph Kabila. L'étude a été réalisée par le groupe d'experts du Congo de l'Université de New York et le Bureau d'études de recherche et de consulting international tenu par des proches de l'opposant Moïse Katumbi. Tension entre chrétiens et musulmans à Boudjala, une localité du nord-ouest de la RDC. Un musulman qui a surpris son épouse avec un chrétien a grièvement blessé son rival, qui a ensuite succombé à ses blessures. Des chrétiens en colère ont ensuite incendié le domicile du musulman et la mosquée de la localité. Kinshasa a estimé à environ 230 000 le nombre de personnes déplacées par les violences en RDC, rejetant de nouveau les chiffres nettement supérieurs avancés par les humanitaires, soit 4,5 millions. La RDC a également confirmé son refus de participer à une conférence des donateurs à Genève en avril. La République démocratique du Congo compte aujourd'hui 231 241 déplacés internes, alors que les humanitaires parlent de plus de 4 millions de déplacés selon le gouvernement. Le maire de Dakar, Khalifa Abakar Sall, condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie sur des deniers publics, faux et usage de faux. Sa candidature à la présidentielle de 2019 est compromise. Sur place, on retrouve Seydina Abagay.
À la lecture du verdict, plusieurs incidents ont éclaté entre les forces de l'ordre et les partisans du maire de Dakar. Entre pleurs et insultes, ces derniers ont manifesté leur mécontentement face à la sentence prononcée contre Khalifa Sall. Ce dernier a été déclaré coupable de faux, usage de faux, d'escroquerie sur des deniers publics pour un montant de 1,650 millions de francs CFA. D'après le juge, l'édile de la ville de Dakar a utilisé de fausses factures pour recevoir 30 millions par mois de 2011 à 2015. Le maire de la capitale sénégalaise devra aussi payer une amende de 5 millions de francs CFA. Outre Khalifa Sall, le directeur administratif et financier ainsi que le comptable de la ville de Dakar ont été condamnés à 5 ans de prison ferme. Les autres prévenus écopent de peines allant de 6 mois à 1 an ferme. Avec cette condamnation, s'éteint le principal espoir de l'opposition sénégalaise pour la présidentielle de 2019. Les leaders de l'opposition présents au tribunal ont fait part de leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme une instrumentalisation de la justice. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En Mauritanie, 3 personnes ont été condamnées cette semaine à des peines de 10 à 20 ans de prison ferme pour pratique esclavagiste. Officiellement abolie en 81, l'esclavage est une pratique qui persiste en Mauritanie et qui s'est dotée en 2015 de 3 tribunaux spécialisés dans les affaires d'esclavage. Burkina Faso, les avocats de la défense au procès du putsch manqué de septembre 2015 se sont retirés de l'audience, mesure prise après le rejet par le tribunal de plusieurs listes de témoins présentées par les accusés et la défense. À l'ouverture de l'audience, le tribunal avait estimé que la convocation et la présence des témoins incombait à la défense, qui a demandé une suspension du procès de 2 mois afin de faire comparaître leurs témoins. Cette demande a été rejetée par le tribunal. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas assister au procès, a estimé un des avocats du général Gilbert Diendéré. Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 36 éleveurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays. Une attaque criminelle, estiment les autorités locales. D'autres corps risquent d'être découverts, ajoute-t-elle. L'armée a été déployée dans cette région où les enlèvements et les vols de bétail sont devenus courants dans les communautés rurales. L'essentiel de la population, majoritairement musulmane, vivant de l'élevage, de la chasse et de l'agriculture. La Sierra Leone retient son souffle à la veille du second tour du scrutin présidentiel. Plus de 3 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre Samora Camara, dauphin du président sortant, et Julius Mada Bio, candidat du principal parti d'opposition, arrivé légèrement en tête au premier tour. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Le vote s'annonce très serré demain. Au premier tour, Samora Camara, candidat de l'APC au pouvoir, avait obtenu 42,7% des suffrages, dévancé légèrement par l'ancien général Julius Maada Bio du SLPP, principal parti d'opposition, qui avait obtenu 43,3%. Julius Maada Bio, 53 ans, militaire de formation, avait participé au putsch de 1992. Par la suite, il avait renversé le chef de la junte, dont il était le vice-président, pour rendre le pouvoir aux civils. En face, Samora Camara, économiste de 66 ans, a été choisi par Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se présenter après 2 mandats. Le vote de demain intervient avec 4 jours de retard. Les préparatifs du second tour ont été suspendus après une bataille juridique. La campagne a été marquée par des échauffourées entre partisans de 2 camps et une montée des tensions ethniques. Les Sierra Leonais espèrent un vote sans violence. Le premier tour s'était tout de même déroulé dans le calme. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
8 Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués ce vendredi par des tirs de soldats israéliens lors d'un face-à-face tendu. Les précisions avec Dili Diko.
Un premier Palestinien a été tué par des tirs de l'artillerie israélienne avant même le début des manifestations. Les 7 autres ont péri dans des affrontements avec l'armée israélienne dans différents secteurs de la bande de Gaza. Plus de 350 manifestants ont été blessés par des tirs selon le Croissant Rouge palestinien. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé aujourd'hui le long de la frontière pour participer à la grande marche du retour. Un mouvement de protestation de 6 semaines pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le blocus de Gaza. Un porte-parole de l'armée israélienne a estimé à 17 000 le nombre de Palestiniens qui ont participé à ces rassemblements. Avant la marche, les dirigeants israéliens avaient prévenu que l'armée n'hésiterait pas à donner à des tireurs d'élite l'ordre d'ouvrir le feu en cas de tentative d'infiltration en territoire israélien.
Syrie, l'armée russe affirme être parvenue à un accord pour l'évacuation de la dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale. Cela signifierait la chute de l'enclave, mais cette annonce a aussitôt été démentie par les insurgés. La Russie a commencé à prendre des mesures de rétorsion contre les pays européens ayant décidé la semaine dernière d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Des diplomates hollandais et lituaniens doivent quitter la Russie. Moscou a par ailleurs donné un mois à Londres pour réduire son personnel diplomatique en Russie. Le groupe État islamique revendique l'attentat suicide perpétré hier dans l'est de la Libye. Au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tués et 8 autres blessés hier soir. Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco.
En RDC, Assis Sahé, le patron libanais de Pain Victoire, la méga boulangerie industrielle de Kinshasa, est entendu aujourd'hui par la justice congolaise pour avoir augmenté le prix du pain, contrairement aux indications du gouvernement. Joseph Kapika, le ministre de l'économie, juge cette augmentation potentiellement dangereuse pour la sécurité de l'État. Le fisc béninois a lancé une opération antifraude pour améliorer ses performances. En ligne de mire, les grandes entreprises et les hommes d'affaires. Nombreuses sont les sociétés qui ont reçu des redressements fiscaux, comme celle de Sébastien Avajon, le roi du poulet. Il doit s'acquitter d'un redressement de 155 milliards de francs CFA. Même des entreprises publiques telles que la Caisse nationale de sécurité sociale ou l'Office de radiodiffusion et de télévision ont été invitées à solder leurs impayés aux impôts. Le Burkina Faso va bénéficier d'un financement de près de 20 milliards de francs CFA de la part de la France pour la réalisation de projets socio-économiques. Plus de 13 millions vont être décaissés à titre de subvention dans les domaines de l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Le reste sera dédié à la lutte contre la pauvreté.
Sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Premier tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2019 qui débute ce week-end.
Et oui, un premier match ce vendredi, Botswana-Namibie, mais surtout samedi, le choc attendu entre l'Algérie et la Tunisie. À suivre également Mauritanie-Maroc, Tanzanie-RDC, Ouganda-Soudan du Sud, Malawi-Swaziland et Seychelles face au Mozambique dimanche. Le Gabon accueille le Togo, le Rwanda se déplace au Kenya, l'Éthiopie face au Burundi et puis la Guinée-Bissau face à la Sierra Leone. Le Bénin a déjà obtenu son billet suite au forfait du Libéria. Les écureuils qui affronteront la Gambie au tour suivant qui verra également l'entrée en lice des équipes exemptées de ce premier tour, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Zambie, tenantes du trophée remporté chez elle début 2016.
Et Zidane veut continuer au Real Madrid.
Et oui, Zidane, sous contrat au Real jusqu'en 2020, a déclaré ce vendredi vouloir continuer à son poste d'entraîneur la saison prochaine, clarifiant pour la première fois ses projets et confirmant ne pas ressentir de lassitude après 2 ans en fonction. Le Real, double champion d'Europe en titre, jouera sa saison lors d'un quart de finale de Ligue des Champions à haut risque contre la Juventus Turin. S'il va au bout de son contrat, Zidane pourrait devenir le technicien à avoir passé le plus de temps sur le banc du Real au XXIe siècle, devant Vicente del Bosque et José Mourinho.
Mais le Barça, lui, entame un mois d'avril palpitant ce week-end en championnat.
Le FC Barcelone, qui vise le triplé Liga, Coupe, Ligue des Champions, aborde sans filet un mois d'avril décisif, avec au préalable un choc à Séville en championnat d'Espagne. Ce sera samedi pour la 30e journée. Une répétition générale de la finale de la Coupe du Roi le 21 avril. On rappelle que le Barça compte 11 points d'avance sur l'Atlético, deuxième.
Et enfin la NBA, championnat de basket nord-américain.
Le retour de blessure de Kevin Durant était attendu avec impatience par Golden State, mais le meilleur marqueur des Warriors a été exclu avant la pause et son équipe s'est encore inclinée à domicile 116-107 face à Milwaukee. À l'ouest toujours, San Antonio a fait la bonne opération de la soirée. Les Spurs ont bondi à la 4e place de la conférence ouest après leur victoire face à Oklahoma City 103-99. Les Wizards de Washington se sont inclinés 92-103 sur le parquet de Détroit.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la République démocratique du Congo. L'UDPS, parti d'opposition, se réunit en congrès pour désigner son nouveau président et potentiel candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre. Un sondage qui vient d'être publié donne l'opposition en tête du scrutin s'il se tenait ce week-end. Pour analyse, Anastasie Tudiège s'est entretenue avec notre confrère Kerwin Maïzo, basé à Paris, en visite à Washington.
Aucune valeur dans ce sens que la stratégie de Katumbi, il est beaucoup plus dans la communication que dans le réel. Alors, Moïse Katumbi travaille avec un cabinet à Washington qui s'appelle Akin Gump et il a pour stratégie d'abord se victimiser par rapport à M. Joseph Kabila parce qu'il sait que généralement lorsqu'on regarde la sociologie congolaise, on constate que la population a tendance à être derrière la victime. Donc ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que Moïse Katumbi cherche à prouver sa popularité par la production de certains sondages. Popularité en général comme étant les meilleurs dans la famille politique qu'on appelle l'AFDEL. Et la deuxième des choses, dans la famille politique dite de l'opposition. Donc, il se positionne comme étant le meilleur du côté de l'AFDEL et le meilleur du côté de ce qu'on appelait avant les rassemblements.
Le sondage dit tout de même des choses intéressantes, montre tout de même des choses intéressantes, notamment que 66% des Congolais voteraient pour une personnalité, un homme politique de l'opposition, si les élections avaient lieu dimanche.
Vous savez, un sondage, c'est l'état de l'opinion à l'instant T. Or, pour le moment, l'opinion congolaise est généralement dépitée par rapport aux politiciens. Donc c'est difficile de savoir avec exactitude qui sera élu, d'autant plus qu'on ne connaît pas les candidats de la majorité dite présidentielle. Donc du coup, Moïse Katumbi, s'il faut réfléchir à minima, il fait partie de ce qu'on appelle l'opposition, et dans l'opposition, il a pour concurrent M. Félix Tshisekedi. Tandis que s'il faut réfléchir à maxima, il fait partie d'une famille politique que j'appellerais l'AFDEL, parce que techniquement, juridiquement, politiquement, il est difficile de faire une ligne de démarcation entre le pouvoir et l'opposition, parce qu'il n'y a pas eu d'élections régulières qui peuvent nous permettre de déterminer qui est dans le pouvoir, qui est dans l'opposition. Et sur le plan idéologique, il est difficile de savoir qui est dans le pouvoir, qui est dans l'opposition. Donc je considère M. Katumbi comme étant un membre de la famille politique dite de l'AFDEL. C'est en fait l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, c'est-à-dire ceux qui ont amené Laurent Désiré Kabila, la coalition qui était composée des Ougandais, des Rwandais, des Burundais et d'autres personnes. C'est toute une famille politique, hein. Alors, c'est qu'on remarque que ces derniers temps, il y a un problème, par exemple, par rapport à sa nationalité. Les sondages, c'est un élément de diversion pour éviter de parler de cette affaire de nationalité dont on doit préciser qu'il n'est pas le seul dans ce cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans la classe politique et ils sont nombreux dans tous les camps à commencer au sommet de l'État.
Notre confrère Kerwin Maïzo, basé à Paris, en visite à Washington.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En République centrafricaine, alors que 70% du pays est encore sous contrôle des bandes armées, le président Faustin Archange Touadéra a célébré aujourd'hui sa deuxième année au pouvoir. Une célébration en grande pompe pour ses partisans est considérée comme un gaspillage d'argent par l'opposition. Deux ans au pouvoir, pour quel bilan ? Élément de réponse à Bangui avec le correspondant de VOA Afrique, Freeman Tsipila.
Élu à l'issue des élections jugées crédibles et démocratiques marquant la fin d'une transition politique de 3 ans, Faustin Archange Touadéra a officiellement prêté serment le 30 mars 2016. Dès sa prise de fonction, le nouveau président élu parmi une trentaine de concurrents s'engage entre autres à ramener la sécurité, promouvoir l'économie, garantir la santé des Centrafricains et rehausser le niveau de l'éducation. Après 2 ans au pouvoir, Faustin Archange Touadéra dresse un bilan à mi-parcours.
deux ans où les Centrafricains m'ont confié la charge de conduire la nation, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais vous savez, notre pays revient de loin, très loin. Nous avons traversé des moments très difficiles. Les fondamentaux de l'État n'étaient plus en place. Il fallait reprendre les institutions non plus. L'armée nationale, l'économie, la sécurité. Même suivant la stratégie que nous avons mise en place, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées dans certains secteurs parce qu'il fallait faire pas à pas. L'incompréhension vient du fait que si vous avez un champ de problèmes comme ça, quand vous essayez de résoudre ça, on vous dit ça. Et tout est urgent. Et les gens de mauvaise foi continuent de dire que mais vous avez fait ça, mais il y a ça que vous n'avez pas fait.
Bilan positif ou insatisfaisant? Dans les rues, les réactions des Bangui-sois divergent.
Ce n'est pas la fête, ce n'est pas le fait de donner des t-shirts, donner de l'argent, donner de quoi manger aux gens qui dit que le président est en train de bien faire. Il faut le bien-être de sa population.
Ça reste encore précoce, c'est pas ce que nous voulons. Hein.
La section de route qui a été réhabilitée par Jean Touadéra, là ce sont les preuves qui ont été vues. Les enfants vont à l'école normalement. On a vu de nos propres yeux, il n'y a pas ce qu'on appelle la crise scolaire.
Pendant les deux ans, il y a certains qui ont été réalisés, mais le problème ici, c'est un problème de sécurité.
Les Touadérateurs, appellation des partisans du président Touadéra, célèbrent cet anniversaire en grande pompe à Bangui et dans certaines régions du pays. Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, s'interroge.
Nous ne savons pas si c'est le mot bilan qui sied dans cette situation. Nous ne savons même pas si nous vivons toujours dans notre propre pays. Je suis triste. Je suis triste parce que quand j'entends les dirigeants de mon pays parler, j'ai l'impression qu'ils ont créé un pays fictif dans leur tête où tout va mieux dans le meilleur du monde. Je suis triste parce que beaucoup d'argent va être dépensé une fois de plus pour fêter ce qui devait être au mieux une journée de réflexion, de remise en question, une journée de modestie et d'acte de contrition. À défaut d'être une journée, on va dire, de deuil.
Après deux années passées à la tête de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra n'arrive pas encore à asseoir la sécurité promise aux centrafricains. Plus de 70% du pays est contrôlé par des groupes armés ex-Séléka ou anti-Balaka. Au cœur de la capitale, des groupes armés dictent encore leurs lois aux habitants de PK5, le grand quartier musulman de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Et cap sur l'Algérie maintenant, s'appelle les Aragas, les brûleurs dans le langage algérien. Un terme qui désigne ceux qui tentent la traversée de la Méditerranée clandestinement dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Des centaines de familles sont sans nouvelles de leurs enfants depuis plusieurs mois. Reportage Kamel Zaït.
C'est sur cette plage de Délis, à l'est de la capitale Alger, que le cauchemar de cette famille a commencé. Il y a 5 mois, le jeune Mohamed, 23 ans, a pris la mer avec 14 de ses compagnons sur une petite embarcation en direction de l'Eldorado européen. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Sa mère et son frère viennent ici en espérant le voir revenir. C'est d'ici qu'ils sont partis. Mon frère Mohamed m'a averti qu'il voulait prendre la mer. Je ne pouvais pas l'en dissuader, alors je lui ai souhaité bonne chance. C'était le 10 octobre dernier. Le phénomène des migrants clandestins en Algérie a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois. Chaque semaine, plusieurs petites embarcations quittent les côtes algériennes en direction de l'Espagne ou de l'Italie. Des jeunes et des moins jeunes quittent leur pays natal vers le pays de leurs rêves.
Nous mourons chaque jour que Dieu fait. On ne peut ni manger, ni boire, ni dormir. Je rôde dans les couloirs chaque nuit en espérant le voir revenir. À chaque fois qu'on frappe à la porte, j'imagine que c'est lui qui va rentrer à la maison et que je puisse le prendre dans mes bras.
Les associations des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme quant aux proportions qu'a pris le phénomène des migrants clandestins. Plus de 3000 Algériens ont tenté cette aventure périlleuse en 2017.
Le phénomène de la migration clandestine a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ce n'est plus uniquement les jeunes qui tentent l'aventure, mais des familles entières. Il y a eu des morts et des disparus. Pour moi, c'est un problème politique avant que ce soit un problème social ou économique.
Le Haut Conseil islamique a édicté une fatwa selon laquelle l'immigration qui comporte des risques est un péché. afin de dissuader les candidats à l'immigration clandestine.
Pour que la fatwa soit en mesure d'arrêter ce phénomène, il faut aussi condamner les causes qui mènent à l'immigration clandestine. Ceux qui poussent ces jeunes à la mort sont condamnables. Et ceux qui se jettent dans la mer sans vraie raison le sont aussi. En tant que religieux, on doit agir de cette manière pour être écouté.
Des réseaux de passeurs se font un argent fou sur le dos de ces desperados en quête d'une vie meilleure. Les autorités tentent de combattre ces réseaux en les traînant devant la justice après chaque arrestation des haragas par les gardes-côtes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Russie a décidé d'expulser 60 diplomates américains et fermer le consulat américain à Saint-Pétersbourg. C'est en représailles à l'expulsion par Washington de 60 diplomates russes et la fermeture du consulat russe à Seattle. Comment expliquer cette soudaine montée de tension entre les deux anciens grands ennemis de l'époque de la guerre froide? Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Brett Brenn, président de Global Situation Room, un think tank américain.
Les actions de la Russie ici aux États-Unis, ailleurs dans le monde, surtout le cas de l'usage des armes chimiques en Grande-Bretagne, sont des actions très préoccupantes et contre les normes internationales. Et il faut prendre d'action.
Mais pourquoi maintenant, alors que quand la Russie est partie annexer la Crimée, il n'y a rien eu, on n'a expulsé personne?
Oui, on a vu une certaine progression dans la réponse des pays occidentaux. Et en fait, je crois que la tolérance de Washington, la tolérance dans certaines capitales en Europe est arrivée à sa fin. Maintenant, ils sont en train de chercher quels sont les meilleurs moyens par lesquels on peut mettre plus de pression, montrer à Vladimir Poutine que ses actions doivent s'arrêter.
Vladimir Poutine, il vient juste d'être réélu. Est-ce que aussi c'est lié à sa réélection?
Nous sommes dans un moment assez important parce que Poutine est en train de faire des plans pour ce deuxième mandat. Il faut en ce moment-ci montrer au Kremlin, surtout à M. Poutine, qu'on ne va pas tolérer les actions que la Russie a commis dans le domaine d'information et aussi avec l'usage de ces armes chimiques.
Et l'implication présumée de la Russie dans les élections américaines, et il y a une enquête qui est en cours en plus.
La Russie, selon l'information qui est sortie de certaines sources dans notre gouvernement, c'est que la Russie continue jusqu'à ce jour-ci avec ses actions dans le domaine d'information, dans le domaine de manipuler l'opinion publique et bien sûr les nouvelles.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'on va retourner à la guerre froide? Non, quand même.
Ça va être différent. On ne va pas entrer dans une guerre froide. Souvent, quand j'étais à la Maison-Blanche, on a parlé d'une guerre asymétrique. C'est l'idée que les armes dans cette guerre ne sont pas forcément des missiles, ne sont pas forcément des armes traditionnelles, sinon des armes d'information, des armes de manipulation de certaines sociétés, de certaines institutions.
Et la Russie a une arme redoutable. C'est lui qui fournit l'essentiel du gaz à l'Europe.
Oui, oui, oui. Bien sûr, il y a une certaine pression que la Russie pourrait mettre sur certains pays en Europe, mais je crois que pendant les années récentes, on a développé au moins certaines alternatives à cette gaz russe.
Brett Brenn, président de Global Situation Room, un think tank américain.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h. captant universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Lionel Grima, présentation Morgane Guériec, ainsi va le monde aujourd'hui.